Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, les protestations qui soulèvent nombre de pays aujourd'hui n'ont souvent pas les mêmes motifs. Minimes en apparence, que ce soit la taxe carbone en France ou celle de WhatsApp au Liban, les révoltés réclament dignité et respect du peuple. Nous engageons une discussion avec François Boursier, historien et professeur émérite à l'Université catholique de Lyon, sur la révolte des peuples aujourd'hui. Puis, c'est la curiosité qui a poussé le reporter photographe originaire du Bénin, Louis Oké Agbo, à s'intéresser aux ombres de la rue atteint de troubles psychologiques en Afrique. Sa quête l'a mené à créer un atelier d'art-thérapie. Aujourd'hui, il expose actuellement et jusqu'au 5 janvier au hangar 717 à Glézé. Et en conclusion, Seules les bêtes, film de Dominique Moll, un thriller au suspense original. Au cinéma Les 400 Coins Franches jusqu'au 30 décembre. Calade, le journal. Les oiseaux rétrécissent au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Le rétrécissement des oiseaux, selon une étude corrélée à la température des zones de reproduction, un article de Clémentine Thiberge pour le journal Le Monde. Les oiseaux sont-ils voués à devenir de plus en plus petits ? C'est ce que suggère une étude en tous les cas publiée dans la revue Ecology Letters. Le 4 décembre dernier, rendant compte du travail minutieux d'un chercheur américain de Chicago. Chaque jour, depuis 1978 au printemps et à l'automne, Dave Willard s'est levé à 3h30 du matin pour recueillir des oiseaux morts écrasés contre les fenêtres des bâtiments de la ville. Cette tenue de notes méticuleuse a porté ses fruits en analysant les données récoltées. Les scientifiques ont découvert qu'au cours des 40 dernières années, les oiseaux ont vu leur taille diminuer. Selon les chercheurs, cette évolution serait probablement liée au réchauffement climatique. Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques ont collecté au fil des années plus de 70 000 oiseaux qui se sont écrasés de bâtiment en bâtiment dans le centre-ville de Chicago. Selon leurs résultats, la masse corporelle des oiseaux et la longueur des os de leurs pattes a diminué, respectivement de 2,4% et 2,6% entre 1978 et 2016. Dans le même temps, les ailes des oiseaux se sont allongées de 1,3%. Ce qui a frappé, c'est que l'ensemble des spécimens représentés, 52 espèces, qui pourtant sont assez différents. Les protestations qui soulèvent nombre de pays aujourd'hui n'ont souvent pas les mêmes motifs, souvent minimes en apparence, que ce soit la taxe carbone en France, celle de WhatsApp au Liban, ou encore l'augmentation du ticket de métro au Chili. Mais il y a un fil conducteur. Les révoltés réclament à l'unisson dignité et respect du peuple. Nous engageons donc une discussion avec François Boursier, historien et professeur émérite à l'Université catholique de Lyon, sur la révolte des peuples à l'ordre du jour de la conférence du Fait du Mois à l'initiative de l'Association des Amis de l'Éducation Populaire à Villefranche.
Oui, ce que les Libanais appellent le karma, c'est-à-dire la dignité, que ce soit au Liban, que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, en Irak aujourd'hui, que ce soit en Amérique latine, le Chili, la Bolivie, le Venezuela, le Nicaragua sont touchés, que ce soit Hong Kong, hein, mais que ce soit, je dirais à la limite, les Gilets jaunes en France l'année dernière, on voit bien que ce qu'il y a de commun à toutes ces révoltes, et qui sont massives et nombreuses et longues, c'est effectivement une revendication de dignité, de reconnaissance.
Oui, longtemps humiliés, ignorés, méprisés par les élites, irresponsables, corrompus et lointaines, c'est en tous les cas ce que l'on entend dire. L'occasion de la révolte est souvent finalement minime, vous venez de le rappeler. La taxe carbone des Gilets jaunes, la taxe WhatsApp au Liban.
Oui, c'est la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'augmentation du ticket de métro au Chili provoque la révolte. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça veut dire que le vase était déjà bien plein et qu'il était plein de frustration, de colère, d'humiliation. Et c'est tout ça qui ressort aujourd'hui. Humiliation à travers une demande d'être reconnu et dans la dignité, c'est vraiment ce qui est commun à tous les peuples et dans tous les pays, même si c'est dans leur tête quelquefois confus et complexe, dans tous ces pays, ils dénoncent le système. Au Liban, aujourd'hui, le peuple qui descend dans la rue, il dit aux chiites, aux sunnites et aux chrétiens qui sont aux affaires de dégager. En Algérie, depuis le 22 février, ils ne cessent de dire qu'ils ne veulent plus voir ces têtes qui ont fait leur malheur depuis 30 ans au pouvoir.
Alors, les peuples se retrouvent-ils seuls face à leur destin ? ou abandonnés à leur destin.
Alors, les peuples ne se retrouvent pas seuls, parce que ça, c'est un peu l'effet positif de la mondialisation, c'est qu'il y a une mondialisation de la colère. Il y a des jeunes de Hong Kong qui sont venus à Paris rencontrer des gilets jaunes. Dans la tête des manifestants, ils savent qu'il y a d'autres manifestants dans le monde. Donc, de ce point de vue-là, ils ne sont pas seuls. Par contre, là où il y a un vrai problème, c'est que manifestement, il n'apparaît pas aujourd'hui d'alternative, c'est-à-dire de projet politique qui pourrait reprendre à son compte les revendications pour les transformer en véritable projet. Ça a été l'impasse des Gilets jaunes. Ils n'ont pas voulu, et en même temps, ils ne pouvaient pas produire une organisation qui aurait permis de concrétiser leurs revendications. Mais certes, il y avait des revendications matérielles, il y a eu les 17 milliards mis en avant par le gouvernement et le président de la République. Mais en fait, quand on analyse sur le fond ce qui se passe dans tous ces pays de par le monde aujourd'hui, c'est ce sentiment que d'un monde qui est dans l'impasse, c'est quasiment dans les fondamentaux de la vie, à quoi ça sert, à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert de vivre, si vivre c'est ça, ce qu'on nous propose, et que ce soit pour consommer ou vivre dans la frustration comme le sont les peuples soulevés. C'est une véritable provocation. Ce que dit Bertrand Badie aujourd'hui, lui, c'est que cette révolte des peuples sonne la fin de la première phase de la mondialisation, où on a pensé que le marché, en se développant, allait apporter des solutions à tous les problèmes. Et les problèmes sociopolitiques, le marché allait se débrouiller. Le marché, il a fait de la marchandise. D'ailleurs, le marché ne sait faire qu'une chose, c'est produire des marchandises. Il ne peut pas avoir la prétention ou l'utopie de penser qu'il va organiser le vivre ensemble. Et donc, ça a produit un vaste phénomène de mépris, d'humiliation des peuples. Et aujourd'hui, ils se révoltent. Et cette révolte, c'est, Bertrand Badie, la deuxième phase de la mondialisation qui commence avec ces révoltes, dont on n'a pas fini de voir les effets qui vont se développer.
Comment créer un ordre nouveau ?
Eh bien ça, c'est, j'ai presque envie de dire que ce sera la phase 3 de la mondialisation. C'est quand il y aura des forces politiques capables de prendre ces frustrations et d'en faire un programme nouveau pour le monde nouveau dans lequel on est, en sachant en même temps que dans tout ça, il faut intégrer les impasses écologiques, les impasses des systèmes socio-économiques hautement développés, mais ça demandera du temps. Mais en tout cas, viendra le moment où il y aura une production politique. En janvier 1789, quand l'abbé Sieyès produit son petit bouquin de quelques dizaines de pages sur le tiers-état, et qu'il commence par cette apostrophe, qu'est-ce que le tiers ? Tout. Qu'est-ce qu'il a été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. À quoi est-ce qu'il aspire ? À devenir quelque chose. Dans le monde entier aujourd'hui, les gens représentent le monde, ils sont tout, ils ne représentent rien, ils aspirent à devenir quelque chose. Et donc, il va falloir inventer le nouveau modèle politique dont on va avoir besoin, comme d'ailleurs l'ont fait les révolutionnaires français de 1789. Ils ont inventé un nouveau modèle.
François Boursier, historien et professeur émérite à l'Université catholique de Lyon, intervient dans le cadre du cycle des conférences du Fait du Mois à l'initiative de l'Association des Amis de l'Éducation Populaire à Villefranche. Prochain rendez-vous du Fait du Mois, le jeudi 23 janvier 2020. C'est la curiosité qui a poussé le reporter photographe originaire du Bénin, Louis Okeagbo, à s'intéresser aux ombres de la rue atteint de troubles psychologiques en Afrique. Sa quête l'a mené à créer un atelier d'art-thérapie, l'art au service de la santé, pour cet artiste photographe béninois. Il expose actuellement et jusqu'au 5 janvier 2020 au Hangar 717 à Glizé, à ne pas manquer.
En 2010, quand j'ai gagné le prix national de la photographie au Bénin, que j'ai un petit déclic dans ma vie. Et chaque fois quand je passe dans la rue, je vois mes frères et sœurs malades abandonnés dans la rue, nus, ils se promènent dans les rues du Bénin. Et moi, je me pose la question, comment je peux être utile à ces gens-là? Je me suis posé la question plusieurs fois, mais dans le même temps, il y a quelque chose qui m'a retourné en arrière, et c'est mon appareil photo. J'ai pris mon appareil photo, j'ai ciblé toutes les rues du Bénin, Tu vois, je sais que c'est interdit de prendre les photos des malades, mais après, en même temps, j'ai osé, j'ai poussé ma curiosité avec mon appareil photo, j'ai ciblé, je les ai abordés. Il y a d'autres qui ont accepté de prendre la photo. C'est ça qui m'a certifié que ces gens-là, ils ont quelque chose de plus important. Tu vois, comme nous, les hommes qui se disent importants, qui ont besoin aussi des choses dans notre vie. Quand j'ai fait ça, j'ai essayé de immortaliser l'instant, le moment, pour pouvoir faire un mémoire sur la santé mentale et faire une bibliothèque scolaire avec mes photos pour aller sensibiliser les enfants dans les écoles, parce que je dis prévenir vaut mieux que guérir. Et là, j'ai organisé une exposition de sensibilisation sur la santé mentale au Bénin en 2016, où j'ai pris l'autorisation avec la mairie de la ville de Porto-Novo, de Cotonou, de Ouida, d'Abomey, pour montrer ces photos dans les places publiques, pour que la population tourne un regard positif sur ces personnes. Et sur les photos, j'ai laissé quelques questionnaires qui permettent à chacun, à chaque visiteur, de rentrer dans ma photo et de trouver lui-même une réponse à ces questions.
Il y a une question, effectivement, oui, nous interroge, qui fait réfléchir, effectivement, les personnes.
Ça. Et quand je propose les ateliers d'expression artistique à l'endroit de ces personnes aujourd'hui, parce que j'ai dit que et la santé mentale est tellement vaste que de confier à une seule personne. Parce qu'après les traitements dans les hôpitaux, avec les médicaments, tu vois, avec la consultation verbale, et le dernier devient quoi? Il devient quoi dans sa vie après les traitements avec les médicaments? Et moi, je propose ces ateliers pour les accompagner, pour leur donner vraiment de l'expression libre, de vider un peu. Je ne sais pas si apathie là peut invider l'intérieur de quelqu'un, mais plutôt de changer un regard, tu vois, sur ses enfants. Parce que s'il arrive à créer quelque chose, ils deviennent des artistes comme moi.
On peut lire peut-être une ou deux photos, effectivement, sur les interrogations, puisqu'on n'a pas l'image.
Voilà l'interrogation. Quand je dis, qu'est-ce qui fait défaut à l'asile, la folie ou la raison? C'est une question que je ne réponds pas, parce que moi-même, je ne connais pas la réponse. C'est à chaque visiteur de trouver une réponse à ces questions, parce que ça me parle beaucoup. Quelle raison? Qu'est-ce qui fait le défaut à l'asile, selon vous? Qu'est-ce qui fait le défaut? C'est la folie ou la raison?
On terminera là.
Ne manquez pas l'exposition Art contemporain et vaudou du Bénin jusqu'au 5 janvier 2020 au hangar 717 rue de Tizy à Villefranche. Et pour conclure cette édition, le film de Dominique Moll, Seules les bêtes, tiré du roman éponyme de Colin Niel, un thriller au suspense original. Le réalisateur était l'invité du Festival 2019 des rencontres du cinéma francophone en Beaujolais et il est à notre micro.
Tu sais ce que c'est l'amour? L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Es-tu prêt à donner ce que tu n'as pas?
Dominique Moll, le moins qu'on puisse dire en tous les cas pour ce film, c'est que c'est un film avec plein de contrastes. On démarre sur 40 degrés Celsius à Abidjan pour arriver en Lozère à moins 4.
Oui, c'est vrai, il fait très chaud et très froid dans ce film. Oui.
C'est une adaptation d'un roman.
Colin Niel, qui est un jeune romancier français. C'est son quatrième roman, c'est quatre autres parce qu'il en a écrit un autre depuis. Ce sont des polars qui se passent en Guyane, parce qu'il a vécu plusieurs années en Guyane, et qui sont formidables aussi. Déjà, ce qui m'a plu, beaucoup plus dans le roman, c'est que c'est un roman noir, enfin très bien mené, avec une structure assez singulière qu'on a maintenue dans le film, c'est-à-dire il y a plusieurs chapitres, et chaque chapitre est le point de vue d'un des protagonistes du film, d'un des personnages. Et à chaque fois, on a le point de vue différent d'un personnage sur ce qui se passe. Donc chacun a en fait une vision partielle de ce qui s'est passé. Ça tourne autour d'un mystère, la disparition d'une femme lors d'une tempête de neige sur le Causse-Méjean.
Il y a une femme qui a disparu.
Ah bon, ça?
Sur le Causse.
Qui était sur le Causse.
On recherche encore la femme de Guillaume Ducas.
Actuellement, au cinéma Les 400 coups, à Villefranche, jusqu'au 30 décembre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade. Souriez, c'est vendredi.